Alors, premier sujet ce matin, le rapport annuel du service de police de la Ville de Montréal.
Un rapport décevant, parce que ce qui nous dit, au sujet de l'augmentation des crimes haineux, au sujet de l'augmentation des accidents avec des piétons, au sujet de l'augmentation des crimes en général, ce sont des faits. Et puis, ce que le rapport dit, c'est qu'il n'y a pas de fait qui soit alarmant dans tout cela. Donc, il y a une augmentation. Il ne semble pas que ce soit une perte de contrôle. Il y a des phénomènes qu'on connaît. Augmentation du sentiment haineux qui s'exprime. Puis d'ailleurs, je pense qu'on mentionne que c'est souvent par des crimes Internet. Là, c'est-à-dire, bon... Et ce qu'il ne nous dit pas aurait pu être intéressant, puis on est comme obligé, me semble-t-il, de lire entre les lignes. J'attendais un peu quelque chose de l'entrevue avec le chef de police. Malheureusement, j'écoutais ça, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a pas grand-chose de plus là, au contraire, il n'y a pas de réponse claire. Ce que je comprends, le principal malaise que ce rapport-là témoigne, il me semble que c'est toute la question du jugement qu'on peut faire sur le comportement ou les allégations de gestes criminels posés par les policiers. On sait qu'actuellement, c'est le Bureau d'enquête indépendante qui a la responsabilité de revoir ces dossiers-là. Ce que je comprends entre les lignes, c'est dit et pas dit en même temps, c'est que la police de Montréal est très insatisfaite des délais et de la non-conclusion de ces différentes allégations-là. Est-ce que ça va se transformer en accusation? Qu'en est-il? Pendant ce temps-là, des policiers qui sont soumis à ces allégations-là, qui sont victimes de ces allégations-là, sont soit sur une tablette ou soit carrément à la maison, ils continuent d'être payés. Et on comprend aussi que pour la police de Montréal, c'est l'UPAC et le Bureau d'enquête indépendante sont des organismes qui ne devraient pas s'occuper vraiment de ces cas d'allégations.
Pas l'UPAC, par exemple.
Mais
t'as les bureaux d'enquête.
Ouais, tu comprends? Ouais. Parce que le BAI, je pense, enquête aussi sur les fuites qui ont eu lieu à l'UPAC en lien avec certains policiers. Mais disons, alors, ce qu'il suggère, c'est qu'il y ait un comité mixte permanent qui puisse revoir les allégations de gestes criminels posés par les policiers.
En toute justice, il faut dire que la question des policiers qui ont été déplacés sur des tablettes, le temps que les enquêtes criminelles soient finies, il y a eu plusieurs des centaines de signalements au bureau des enquêtes à l'unité mixte, mais ça relève pas du SPVM. Le chef de police, il est pogné là. Son dilemme, c'est qu'est-ce que je fais avec ces policiers-là qui seront pas accusés, et il va en avoir beaucoup qui seront pas accusés. C'est ce qui arrive quand tu mets plusieurs années à enquêter des cas. Mais la piste devient plus froide, les témoins oublient, etc. Puis moi, ce que j'entends, c'est que les dossiers sont soumis au procureur de la Couronne, les procureurs de la Couronne regardent ça, et semble-t-il qu'on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'avoir des condamnations. Fait que là-dessus, M. Caron, le directeur du service de police de la Ville de Montréal, c'est hors de ses mains. Il faut juste qu'il se demande qu'est-ce qu'il va faire avec ces gens-là, puis c'est une situation qui va être malaisante pour tout le monde. Tu as été déplacé parce qu'il y avait assez de soupçons, mais il n'y a pas assez de faits pour que tu sois l'objet d'un procès. Là, tu vas dire, je vais revenir. On t'envoie où? Il y a une limite à envoyer des gens dans des associations de police.
Regarde le cas du directeur Pichet. C'est un bel exemple. Là.
Ben oui.
C'est pas des allégations, mais il s'est fait tasser. Puis là, lui, il réclame, évidemment.
Il réclame, évidemment, mais au final, je pense que ça va coûter très cher. Il va peut-être avoir des poursuites là-dedans, là, parce qu'il y a des policiers qui vont dire j'ai été blanchi, on ne m'a pas accusé, je veux revenir. Et moi, je m'étais fait dire à l'époque qu'il y a des gens qui ne reviendront pas, c'est sûr. Mais ça, c'est en dehors de ses mains. Mais moi, ce que je retiens de ce rapport-là, c'est la hausse des homicides à Montréal. Bon, ça frappe l'imaginaire. Il y a 32 meurtres en 2018 contre 24 en 2017. 106 tentatives de meurtre en 2018 et c'est 17 de plus qu'en 2017. Il faut quand même se rappeler que ça reste des proportions assez minimes. C'est pas comme s'il y avait une hausse des crimes de rue. C'est assez précis. C'est assez circonscrit aux crimes organisés, semble-t-il. Et dans le Journal de Montréal ce matin, tu as Maria Mourani, l'ancienne députée, qui est une criminologue, qui nous dit que il n'y a pas lieu de s'inquiéter là-dessus. Donc, tu vois ça, ces chiffres-là, puis tu te dis, bon Dieu...
Il a dit ce matin, en gros, un tiers crime organisé traditionnel, oui. Un tiers drames familiaux, là, oui. Puis un tiers criminel, mais pas associé à la mafia ou au moteur. Là.
Donc, est-ce que le travail policier peut endiguer ça? Écoute, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que Montréal reste encore une métropole extrêmement sécuritaire quand on se compare aux villes américaines aussi. Mais à Toronto, il y a une recrudescence, par exemple, du crime de rue, des bandits qui se tirent dessus en pleine rue. C'est pas le même genre de criminalité qu'on a à Montréal. Donc, il faut voir ces manchettes-là et prendre un peu pour en prendre un peu ça qu'un grain de sel.
Oui, le travail policier comme tel, bon, mettre des puces pour que les policiers soient géolocalisés, utilisation du taser plus fréquente, bon, on suppose que c'est peut-être une bonne mesure dans la... Tu sais, ça veut dire qu'ils sortent pas leur revolver. Donc, il semble que le travail policier comme tel, pour endiguer la criminalité, ça soit efficace. Là où il semble y avoir un problème, c'est tantôt, on le disait, dans les forces obscures de la police, là, ce qui se passe au niveau de interne, et ça, moi, je continue à nager dans le mystère par rapport à tout cela, et c'est vaste. Et aussi, tout ce qui touche à la gestion de la circulation, puis des comportements, puis des relations entre les automobilistes, l'état des routes, les piétons, les cyclistes, comment gérer en quelque sorte la fluidité, parce que ça relève aussi des policiers. Et là, tu as l'impression que tout le monde... Il y a pas grand monde qui sait quoi faire au juste.
Non, mais on donnait l'exemple ce matin à côté de la métropolitaine, le AEW, Crémazy, Christophe Colomb, là, puis Papineau. Bon. Tu dis, il y a une entrée de ce service à l'auto pour le restaurant ou le stationnement du restaurant. Il faut que tu passes à travers une piste cyclable. Il y a un père qui écrit que sa fille s'est fait frapper, puis que lui-même voit ça régulièrement, des cyclistes qui se font heurter, blesser, puis là, c'est au tour de sa fille. Puis là, tu dis, moi, je suis le père, je vais voir la police en disant, écoutez, ça a pas de sens. T'sais, c'est comme si on te décourageait, là.
Mais ça, il y a un leadership politique qui doit s'exercer là-dedans. Parce que, oui, la police peut faire des recommandations, mais c'est les élus de cet arrondissement-là qui doivent dire, là, on va aménager mais comme du monde.
C'est-tu documenté par la police? Est-ce que le commandant du poste va dire, écoutez, là, on est rendu à 8 accidents-là?
Le père, ce qu'il dit, c'est que, écoute, il y a eu de la misère à faire documenter cet accident-là parce que sa fille n'a pas été estropiée, elle n'a pas été tuée. Mais lui, comme il dit, je vois plusieurs accidents là-bas. Mais ça, est-ce que c'est le job de la police? Je ne sais pas. Je pense que c'est beaucoup le job du politique sur ce qui est de ce que Pierre appelle la fluidité, les relations entre cyclistes et automobilistes. Une question d'aménagement. Les policiers vont appliquer les lois, mais il faut qu'il y ait un leadership politique là-dedans.
La réponse de M. Caron, c'est de dire qu'il travaille en commun, il revoit l'aménagement, la signalisation. C'est un rapport, disons que je pense pas qu'il va rester dans les annales comme étant le rapport du siècle.
Moi, ce qui m'intéresse dans le mandat de M. Caron, c'est pas tant ce qu'il y a dans les rapports, c'est ce qu'il va pouvoir faire à l'interne, dans les cultures internes du SPVM. On sort de décennies de cliques qui se battaient dans des combats à la mort métaphoriques, on va appeler ça comme ça, là, pour avoir le pouvoir. Est-ce qu'il va casser cette culture-là au point où on n'aura plus ça après son mandat? Ça, tu liras pas ça dans un rapport, mais c'est beaucoup
mais
là-dessus qu'on va le juger.
Qui va nous informer de ça? Moi, ma question, c'est toujours, ça, où allons-nous savoir enfin? Est-ce que cette culture a été changée? On ne le saura pas avant,
Pierre,
quoi?
Ça ne s'écrit pas dans un rapport et ça se mesure par un effet dans le temps sur plusieurs années.
OK, au retour, est-ce que vous voulez qu'on investisse dans une espèce de programme multiple pour réduire la consommation de mazout? Transformer les systèmes de chauffage ou si vous préférez avoir une baisse de votre compte d'Hydro-Québec. La surprise sera annoncée aujourd'hui par M. Legault. Autoroute 40 pour commencer.